9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
C'est bon, on attaque
Maître Sérame, c'est quand vous voulez. Déjà qu'on est en retard, si en plus vous en rajoutez, on va pas s'en sortir.
Donc il est toujours 9h02 et nous sommes le vendredi 24 juin 2022. Maître Sérame vous salue, camarades auditeurs et auditrices et futurs vacanciers, du moins pour ceux qui ont encore un budget pour aller en vacances. Moi, évidemment, que ces futures vacances soient gâchées par le retour du Covid. Certains d'entre vous vont aller se ressourcer en France et là, il vous faudra un budget essence qui risque d'être supérieur au prix de votre location. Où sont les gilets jaunes qui ont mis le feu à la France il n'y a pas si longtemps pour un litre d'essence qui était à l'époque d'environ 1,50€ et qu'on trouvait alors excessif et aujourd'hui à 2,50€ sont complètement amorphes. Bon. Tu me diras, si t'as pas les moyens de te payer de l'essence pour une voiture électrique, pour à peine 30 000€ minimum, tu pourras rouler en respectant en plus l'environnement. Mais si pour des raisons financières, tu ne peux pas partir en vacances en France, n'hésite pas, par exemple, à te rendre en Algérie, là, pour un billet qui parfois frôle les 1 500€, tu peux te rendre à Alger, Oran, Tlemcen, tout en sachant qu'à ce prix-là, tu peux acheter un billet pour l'Australie, le Japon et l'Afrique du Sud cumulé. Mais faut croire qu'il n'y a pas de prix pour aller en Algérie. Les Algériens sont probablement le peuple le plus amoureux de leur pays pour accepter un tel prix qu'ils en profitent. Car ça commence à sentir mauvais en France et là. C'est là, mon cher Philippe, que je reconnais le génie de Maître Sérame, car cette dernière phrase est une transition parfaite pour vous parler de l'événement de la semaine, les élections législatives et le séisme de ces dernières avec l'arrivée à l'Assemblée nationale de 89 députés du Rassemblement national. Alors on imagine par conséquent que de nombreuses propositions de loi concerneront les élections, l'immigration, pardon. D'ailleurs, vous savez, mon cher Philippe, qu'il y a la différence entre proposition de loi et projet de loi. Lorsque le pouvoir exécutif prend l'initiative d'une loi, on parle de projet de loi. En l'occurrence, c'est le Premier ministre, mais on sait tous que c'est le président qui est derrière. Et lorsque le pouvoir législatif prend l'initiative d'une loi, on parle de proposition de loi. Alors, ça peut être un député ou un sénateur. Ça, c'était pour la leçon du jour. Mais il me semble que la vraie surprise de ces élections, c'est pas tant les 89 député du RN, mais l'atomisation de celui qui a squatté toutes les chaînes télé lorsqu'il avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle et qui, comme vous le savez, a été giflé, mais qui manifestement est heureux quand il se mange des baffes en pleine poire, car non seulement il n'a pas été élu président, mais aucun candidat de son parti Reconquête n'a été élu. Et espérons tout de même que ce dernier puisse se présenter aux prochaines élections présidentielles pour qu'on ait simplement le plaisir de jubiler pour son prochain échec. Allez, assez parlé des losers, à vous la parole. Si vous avez une quelconque question de droit, n'hésitez pas à nous contacter au 01 53 48 3000. Émission sous le contrôle de celui qui, faute d'avoir été élu député, peut être élu le meilleur présentateur radio, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Ah, vous êtes bien, Maître Sérame. Je suis plutôt dépité, moi, avec ce qui se passe là en ce moment. Ouais, dépité. C'est fini, on va plus en Australie pour... Non, c'est fini. C'est tous les billets sont chers, Maître Sérame.
Même l'Australie.
Ah ouais,
même plus cher que l'Algérie.
Ah ouais, facile.
Oh.
Ouais, facile, ouais.
Carrément.
Quand je pense à l'imam Abdelali Mamoun qui part à 4 en Algérie, je pense qu'il a dû casser son code de vie.
Non, mais ça n'a pas de sens.
Hein?
Mais l'Algérie, ça a toujours été ultra cher. C'est un vrai mystère.
Oui, non, mais là, c'est même pas ultra cher.
Bah oui, quand
là,
même.
Ouais.
Je trouve ça bizarre, non? Qu'est-ce qui
6 000€ à 4, ça fait pour 4 billets.
Ouais,
ça,
non,
ça
faut pas déconner.
Non, ça, à ce moment-là, on attend la fin de la saison. On y va en novembre.
Mais ça n'a pas de sens, honnêtement. Ça va être blindé de monde. Les gens sur place sont pas forcément agréables. La famille sur place est insupportable. En tout cas, je parle pour moi. Donc non, c'est pas rentable. Les vacances, c'est fait pour se reposer. Quand vous allez là-bas, vous vous reposez pas.
Bon, moi j'aimerais bien que quelqu'un qui a une voiture électrique nous dise si ça fonctionne. Parce que j'étais en train de dissuader Maître Sérame ce matin en disant que finalement, c'est un peu tôt pour les voitures électriques. C'était super cher et ça fonctionnait pas si bien que ça. Mais peut-être que quelqu'un qui a une voiture électrique et qui trouve que ça fonctionne bien pour faire de la route... qui nous le disent au 01 53 48 3000 pour voir si pour éclairer Maître Sérame.
Sauf si c'est un type qui joue le lobbyiste pour les voitures électriques, enfin quelqu'un de une vraie personne.
Ouais, bientôt on n'aura plus le choix de toute façon.
Bah oui, c'est ça qui est terrible.
Mais pour l'instant, c'est pas super au point, maître Serran.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Bien, alors on va parler de quelque chose qui est très au point et d'innovation ce matin, des innovations qui concernent le divorce par consentement mutuel. Et là, on parle de dématérialisation, de digitalisation. Qu'est-ce qui se passe en termes de divorce,
maître Serran? Ça fait un peu peur. Tout va très vite, mon cher monsieur. Moi qui a aujourd'hui quasiment 25 ans d'ancienneté dans cette activité, j'ai connu le divorce par consentement mutuel du temps où ça se passait en deux phases avec deux rendez-vous chez le magistrat, et donc un consentement mutuel pouvait parfois durer un an, voire même un an et demi, et on pouvait avoir un seul avocat pour les deux personnes, pour les deux parties. Ensuite, on a eu la procédure de divorce par consentement mutuel, alors qu'a effectivement été entre guillemets limitée dans le temps, mais avec une obligation pour chaque partie d'avoir son propre avocat. Donc on peut se dire c'est assez particulier si c'est un divorce par consentement mutuel, mais c'est vrai que parfois il y avait toujours une sorte d'ascendant de l'un sur l'autre, et puis on va être clair, très souvent de monsieur sur madame. Donc quand monsieur choisissait son propre avocat, et on va dire l'imposait à madame, c'était pas toujours le fait du hasard. Et maintenant on va à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a plus, j'allais presque dire, d'audience physique. Vous pouvez même rencontrer votre client via Internet, et les avocats vont se contacter par ce service. Alors c'est une sorte d'Internet propre aux avocats. On réussit déjà à prendre des rendez-vous auprès du juge, donc via ce système-là. Et maintenant, depuis le 1er juin, il y a effectivement ce divorce par consentement mutuel totalement dématérialisé. Ça signifie quoi ? Ça signifie que la convention va être rédigée par les deux avocats. Chacun va montrer son visage via son petit ordinateur pour dire...
Via Zoom ?
Ouais, c'est exactement ça, via Zoom.
Teams,
Et puis, à partir du moment où tout le monde est d'accord, il va y avoir une signature des avocats, une signature des clients, et pour aller jusqu'au bout de la procédure, cette convention d'honoraires avec ces signatures va être envoyée au notaire. Alors pareil, un notaire qu'on ne verra plus physiquement. Alors, il y a un avantage évidemment, puisque la plupart des clients nous disent ça permet d'aller plus vite, et puis quand on leur a parlé de ça, les clients entre guillemets, on va dire pressés de divorcer, optent pour cet aspect-là. Après, il y a un inconvénient. Le premier de ces inconvénients, c'est que quand vous ne supportez plus l'autre, vous cherchez parfois à aller vite, mais c'est contre-productif. Il faut savoir que si demain, vous vous rendez compte que cette fameuse convention de divorce qui a été signée dans un temps record pose difficulté, en règle générale, ça concerne les personnes qui ont des enfants, vous serez obligé de ressaisir un avocat, de revenir devant un juge aux affaires familiales. Donc ça pose quand même toujours difficulté. Donc faut faire attention à cette procédure qui, comme ça, semble extrêmement parfaite. Et puis il y a un deuxième inconvénient. Ça ne concerne pas forcément toutes les personnes qui sont sur le territoire français en fonction des nationalités. On l'avait déjà évoqué au sein d'une émission, en disant que des pays initialement comme Maroc,
l'Algérie,
la Tunisie ne reconnaissaient pas les divorces prononcés par les notaires, puisqu'encore une fois, dans ce type de procédure, c'est pas le juge qui prononce le divorce, mais c'est le notaire.
Alors, est-ce que c'est toujours le cas, maître Serran?
Le cas de
que l'Algérie, le Maroc, les
Tunisies, il y a eu, alors
ça a pas évolué.
Alors ça a évolué, mais ça a évolué, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que vous savez, moi je préfère qu'un pays dise on le fait, on le fait pas. Ouais. Et là la difficulté, c'est que il faut inviter les personnes qui sont concernées par ça, donc qui sont de nationalité algérienne ou qui se sont mariées en Algérie. Ces personnes doivent contacter la mairie du lieu de mariage. Et si elles sont nées là-bas, la mairie du lieu de naissance, pour voir si cette commune reconnaît les procédures de divorce par consentement mutuel prononcées en France. Donc c'est pire que tout. C'est-à-dire que ça dépend même pas de la politique d'un pays, ça va dépendre du lieu où vous êtes né ou du lieu où vous êtes marié. Et j'invite quand même si votre mairie dit oui, il n'y a pas de difficulté, vous pouvez divorcer en France et puis faire transcrire, puisque la finalité c'est ça, c'est-à-dire que votre divorce prononcé sur le territoire français puisse apparaître sur vos actes d'état civil, j'invite quand même les personnes à ne pas se contenter d'un accord verbal, mais à demander donc une confirmation écrite des services de l'état civil pour être certain de ne pas faire une procédure qui n'aboutirait à rien. C'est-à-dire, alors officiellement, bien sûr, vous serez divorcé sur le territoire français, mais si, je dis même plus le pays, mais si la commune vous dit « mais moi, ce type de divorce, je ne le reconnais pas », vous serez toujours marié au pays. Ça signifie quoi ? Ça signifie que cette personne devra engager une procédure de divorce au pays, et pour peu, puisque ça arrive assez souvent, et pour peu que l'un des conjoints soit de nationalité française, votre divorce au pays, je ne vois pas comment vous pourrez le faire transcrire sur le territoire français, puisque sur le territoire français, vous aurez déjà été divorcé il y a bien longtemps. Donc, on a parfois des situations qui sont ingérables, où vous avez des clients qui ont deux décisions de divorce, une décision française, une décision rendue par les autorités du pays, mais qui sont incompatibles. Donc, ça pose toujours difficulté. Donc, si vous êtes de nationalité algérienne, encore une fois, la règle qui consistait à dire pas de divorce par consentement mutuel prononcé par un notaire, ça ne concerne pas les divorces prononcés par un juge, que les divorces prononcés par un notaire. Donc, il y a eu une petite évolution. Vous pouvez contacter le lieu où vous êtes marié, le lieu où vous êtes né, pour leur poser la question et leur demander si ce fameux divorce serait applicable et donc officiel sur le territoire algérien.
Est-ce que c'est moins cher ?
Un divorce par consentement mutuel, ça reste moins cher. Mais honnêtement, le danger, c'est ça. Alors, il y a des divorces par consentement mutuel qui se passent très bien. Donc, il faut être clair. Mais très souvent, ce que je peux comprendre, il y a l'aspect financier. C'est-à-dire que les gens se disent, pour un minimum d'investissement, un minimum d'argent et un temps minimum aussi, je vais être, entre guillemets, débarrassé de l'autre. Et parfois, la précipitation finit par coûter cher. Parce que si, certes, au début, vous avez mis la main à la poche, mais un montant, on va dire, limité, un timing limité, tout ça pour vous en débarrasser, et si demain, après-demain, il y a des difficultés, il faudra revenir voir l'avocat, il faudra retourner devant le juge, vous paierez une deuxième fois, ce sera probablement beaucoup plus cher, puisqu'à ce moment-là, il y aura eu des difficultés et un conflit. Donc voilà, il faut quand même se poser la question. Faites attention, encore une fois, aux procédures de divorce. On en voit parfois sur Internet, on vous dit, pour 300 euros, vous serez divorcé. Donc moi, ça me semble toujours extrêmement curieux et surprenant. Faites attention à ça quand même, ça finit parfois par vous coûter beaucoup plus cher, on va dire, entre guillemets, qu'un tarif normal.
C'est la base. Maître Serane qui répondra à vos questions dans un instant. Donc si vous avez des questions à poser à Maître Serane, vous composez le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, et vous posez vos questions à Maître Serane au 01 53 48 3000. Alors c'est Ahmed qui est arrivé le premier ce matin. Ahmed, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Ahmed.
Oui, vous allez bien ?
Ça va et vous ?
Oui, ça va, merci. Bonjour, monsieur Serral.
Bonjour, Ahmed.
Ça va, vous allez bien ?
Ça va, alhamdoulilah, merci.
Alhamdoulilah, merci beaucoup. J'ai une petite question. Je dois poser un préavis pour un déménagement. Et ouais. Je me suis aperçu que je voulais envoyer à l'adresse. Et je me suis aperçu que sur l'adresse mail, enfin, sur le bail, il y avait seulement l'adresse mail et pas d'adresse. Et donc, est-ce que je peux envoyer mon préavis sur l'adresse mail ou...
Ah oui, enfin à partir du moment où c'est l'adresse mail officielle et que tout ça est réceptionné par la boîte, il y a pas de difficulté.
Il y a pas obligation de la faire par courrier normal.
Quand j'ai regardé sur internet, moi on m'a dit que c'est soit en main propre, soit en recommandé. Mais
c'est ce que je vais vous dire. Il y a pas. Oui, mais c'est ce qui est normal, c'est-à-dire que le recommandé, je l'évoque moi-même, c'est ce qui constituait le truc officiel, mais à partir du moment, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que la société a été destinataire de.
Voilà, non, à partir. Je suis locataire de.
Oui, enfin la société, le bailleur, peu importe. Mais est-ce que la partie adverse a été informé officiellement d'un préavis pour certains et pour d'autres, quelle que soit l'information. Mais c'est ça qui est important, le recommandé avec accusé de réception, encore une fois, le but du recommandé AR, c'est ça, c'est m'assurer que l'autre a bien reçu cette information. Ouais. Donc, vous pouvez par mail les informer. Alors, le truc, je vous invite quand même, parce que parfois ça se barre dans des spams et autres, donc qu'on vienne pas vous dire, d'accord, vous l'avez envoyé, mais nous on n'a rien réceptionné. Une fois que vous avez envoyé cette information, ça coûte rien de passer un coup de fil simplement pour vous assurer que qu'ils en ont bien été destinataires. Donc il faut quand même prendre cette petite précaution.
Si je le scanne et j'envoie sur son numéro de portable. Je
l'envoie. Encore une fois, voilà, à partir du moment où vous pouvez établir, ce qui est important, c'est le fait de savoir est-ce que moi qui suis destinataire de l'information, je l'ai reçu ou pas. Donc à partir du moment où vous prenez ces précautions-là, il n'y a pas de difficulté.
Ok, ça marche. Ok, bah, c'est juste ça. Bah, merci à vous. Nickel.
Merci pour votre appel.
Merci Ahmed.
Allez, très bonne journée à vous. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Alors, nous avons Hamza qui est avec nous. Hamza, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Hamza.
Vous allez bien ?
Ça va et vous ?
Ouais, ça va. Alors, j'ai une question, moi, pour Maître. Bonjour Maître.
Bonjour Hamza.
Vous allez bien ?
Ça va, alhamdoulilah, et vous-même ?
Ouais, j'avais une question pour vous, c'était pour la question du divorce. Alors, moi, je suis né en Algérie. Je me suis marié avec une Française, ici en France. Et du coup, je voulais faire le divorce par consentement mutuel.
Mmh.
Et ma question, du coup, c'était si au cas où, enfin, je voudrais me remarier, est-ce qu'il y en a des gens qui m'ont parlé de l'exéquature ou je sais pas quoi.
Alors, il y a deux choses. D'abord, si vous êtes de nationalité algérienne, c'est ce que je disais dans l'introduction de cette émission, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même pour vous assurer que votre jugement de divorce à l'amiable, et quand on dit à l'amiable, on parle de la procédure qui se fait donc avec les avocats et ensuite devant notaire, il faudrait poser la question à la mairie de votre lieu de naissance pour vous assurer que ce type de divorce est accepté par ce service. Donc ça, c'est important parce qu'il pourrait vous dire nous, on ne reconnaît pas le divorce à l'amiable prononcé par notaire. Et donc, dans ce cas-là, vous serez certes divorcé au pays, en France, mais la France, l'Algérie, si vous êtes algérien, ne reconnaîtra pas votre divorce. Donc, prenez quand même cette précaution-là.
D'accord.
Et si on vous dit oui, demandez une confirmation écrite. Ouais, pour D'accord. pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Donc si vous procédez de la sorte, il n'y aura pas d'exéquature particulière. C'est-à-dire que votre jugement sera valable sur le territoire français et vous pourrez le faire transcrire au pays. Dans D'accord. l'hypothèse où, encore une fois, je dis même pas où l'Algérie l'accepte, dans l'hypothèse où la mairie de votre lieu de naissance accepte ce type de procédure. Donc c'est pas encore dans toutes les villes de tous les pays du Maghreb. Hein.
D'accord.
C'est vraiment au cas par cas.
Mettre, mon extrait de naissance de la mairie où je suis, il n'y a pas transcription.
La transcription n'apparaît pas. Oui, alors c'est assez. Je ne suis pas surpris, mais vous avez bien compris que normalement, je me marie. Ça apparaît sur mon acte de naissance, c'est-à-dire que je dois le faire transcrire. Donc si je divorce, je dois aussi le faire transcrire. Mais là, c'est un cas particulier. Si vous me dites que sur votre acte d'état civil, monsieur au pays, la mention n'apparaît pas, et oui, voilà. Et si vous êtes certain que cette mention, le service ne le découvrira jamais, et a priori, l'information doit venir que de vous, bah, dans ce cas-là, ce que je suis en train de vous dire tombe à l'eau. Donc faites la procédure de divorce que sur le territoire français. Mais les D'accord. autorités du pays n'auront aucune information concernant ce divorce, puisqu'on vous dira officiellement vous n'êtes pas marié.
Est-ce qu'ils auront l'information que je suis marié ?
Encore une fois, en règle générale, monsieur, l'information, elle vient des parties, c'est-à-dire elle vient de monsieur ou de madame.
Ah oui, d'accord.
Vous voyez, donc si vous ne faites pas ce genre de démarche, il n'y a personne, il n'y a pas de, comme on dit, de tierce personne qui viendrait toqué au service de l'état civil pour dire je vous signale que monsieur est marié. Donc l'information D'accord. vient de vous et de madame.
D'accord. Très bien, je vous remercie. Je vous remercie, maître.
Merci à vous pour votre appel.
Hamza, pardon. Alors, nous avons... Merci Hamza. Alors, on a Ahmed, justement, qui est avec nous. Ahmed, bienvenue.
Oui, bonjour maître.
Bonjour Ahmed.
Oui, excusez-moi, s'il vous plaît, j'ai un grand problème, j'ai besoin des renseignements. Moi, je suis d'origine algérienne. J'ai rentré par visa l'année 9-9-2013.
Ouais.
Et je suis marié avec une femme algérienne, elle a un titre de séjour de 10 ans. Et j'ai fait ma vie ici en France, j'ai 3 enfants et tout. J'ai obtenu un titre de séjour vie privée familiale l'année 2018, le 2 janvier l'année 2018. Depuis le jour que j'ai obtenu ma carte, j'ai signé un contrat CDI, je travaille, j'ai aucun problème. D'habitude, je renouvelle mon titre, un mois et demi, je reçois le nouvel titre. J'ai la dernière carte, il est expiré le 2-6-2020. Depuis le 2-6-2020, j'ai pas reçu ma carte jusqu'à maintenant. À chaque fois, je renvoie des emails pour la préfecture et tout, aucune réponse. J'ai parlé avec un député de ma ville où j'habite, moi, sur Jeanville, il a renvoyé une lettre pareille, aucune réponse. J'ai perdu mon travail à cause de mon titre de séjour. Le contrat est suspendu. Hier, j'ai été à la préfecture sur place. Il m'a dit sur votre dossier, il est en cours, mais il n'y a pas une carte en cours de fabrication. Il faut patienter. Ça fait deux ans que je patiente. Franchement, je ne sais pas c'est quoi la solution.
Alors, c'est vrai que les autorités préfectorales ont pris beaucoup de retard. Mais deux ans, ça me semble évidemment particulièrement long, puisqu'il y a des conséquences pour votre boulot, et vous venez de nous l'expliquer. Alors, quand c'est comme ça, monsieur, il n'y a pas beaucoup d'options. C'est-à-dire, alors, soit vous dites, bon, bah, tant pis, ils me disent que c'est en cours de fabrication et puis on va attendre. Soit il y a une procédure devant un tribunal administratif. C'est une procédure de référé, c'est une procédure d'urgence. Mais ça vous oblige à saisir le tribunal pour faire part de cette situation. Et vous, l'urgence, elle existe, puisqu'il y a un boulot que vous pouvez perdre définitivement. Et c'est le tribunal qui va forcer la main aux services préfectoraux et les obliger donc à vous répondre rapidement ou à vous fixer un rendez-vous. Mais il n'y a pas d'autre option. Vous voyez, et on est souvent confronté à ça, mais là, ça me semble particulièrement long pour un renouvellement de carte.
Le problème, parce que moi, j'ai fait une avocate, il a renvoyé une lettre au niveau de la préfecture, pareil, aucune réponse. Mais l'avocate, il m'a dit, on peut pas faire, on part au tribunal administratif, Rosa, parce que après la lettre de député de ma ville, j'ai reçu moi une convocation, il m'a donné un récépissé, mais malheureusement, j'ai perdu le travail parce que le contrat il est suspendu.
Alors, ça, c'est autre chose, monsieur. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, vous avez reçu un récépissé de la part des autorités préfectorales?
Oui, c'est ça.
D'accord, parce que c'est pas l'information que vous avez donnée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez reçu un récépissé, c'est que le dossier est en cours. C'est-à-dire que le récépissé fait foi. C'est-à-dire que si je suis votre patron, votre récépissé est suffisant. Ouais, c'est-à-dire que si j'ai un contrat, je vous garde.
Mais j'ai obtenu le récépissé après de un an que le contrat est suspendu.
Alors, on est d'accord là-dessus. Mais oui. Sachant... Là, il y a deux choses, monsieur. Vous me dites, j'ai pas de titre. Si vous m'aviez dit j'ai un récépissé, je vous aurais dit monsieur, votre avocate quand elle vous dit on peut pas aller devant le tribunal, dans ce cas elle a raison. Le récépissé c'est la preuve comme quoi la préfecture est en train de traiter votre dossier. Donc là c'est carré. Maintenant c'est à votre patron entre guillemets de faire cet effort là. Si vous a suspendu le contrat à partir du moment où vous présentez un récépissé, tout est rentré dans l'ordre.
D'accord.
Vous voyez, alors la préfecture a pris du retard, dont acte. Mais à partir du moment où on vous remet un récépissé, même tardivement, et je peux l'entendre et le comprendre, au patron de jouer le jeu. Vous avez un récépissé, donc le patron doit vous reprendre et réactiver votre contrat de travail.
D'accord. Parce que j'ai fait la réclamation avec mon employeur, j'attends toujours la réponse.
Ah, décidément, personne ne vous répond en temps et en heure. Mais bon, après, alors je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est peut-être l'employeur qui profite aussi de la situation pour faire en sorte de plus vous garder. Ouais, ça sent plutôt ça. Mais n'importe quel employeur serait ravi si son salarié lui présentait un récépissé. Hein. En soi, c'est suffisant.
D'accord. Parce que hier, j'ai été à la préfecture. Je suis profité parce que j'ai un rendez-vous pour ma fille. J'ai demandé la dame au niveau de guichet, il m'a dit c'est bizarre, deux ans, vous n'avez pas un carton pour, il n'y a rien sur le système, je ne sais pas, il faut faire la réclamation par mail. Et moi, j'ai envoyé presque 1000 mails au préfecture, le monde aussi n'est pas bougé.
Alors là, on est d'accord, mais je reviens à la dernière information que vous avez donnée. Est-ce que vous avez un récépissé, monsieur ?
Oui, c'est ça.
Voilà, bah, donc ça veut dire que les mails, il y en a eu beaucoup et ils ont mis le temps pour en prendre connaissance, mais c'est que tout est rentré dans l'ordre. Je leur dis le récépissé, ça veut dire je suis, moi, préfecture, en train d'examiner votre dossier.
D'accord.
Voilà, mais vous pouvez vous balader avec votre récépissé. Vous voyez, c'est l'équivalent de votre titre de séjour. Quand on a un récépissé, on est en situation régulière sur le territoire français.
Bien sûr, oui. Mais
voilà.
Le problème, comme mon récépissé, moi, il va expirer le 1er juillet. Après, je patiente un mois pour le renouvellement. Il n'y a pas de vacances pour les enfants. Et la ville est changée un petit peu.
Ah ouais, mais bon, mais j'entends, hein. Et je comprends, mais ça se saurait si les autorités préfectorales devaient raisonner en fonction du bien-être et des vacances des uns et des autres. Vous voyez, c'est-à-dire que ça leur passe un peu au-dessus de la tête. Mais il faut savoir que le récépissé, là, c'est le premier que vous avez ou c'est un deuxième?
Non, le récépissé, maintenant, ça, c'est le sixième.
Alors, il faut savoir qu'on peut voyager, monsieur, avec un récépissé. Hein. On peut pas le faire avec le tout premier récépissé, mais si c'est un récépissé qui a été renouvelé X fois, vous pouvez voyager avec, il n'y a pas de difficulté.
D'accord, oui, ben merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup.
Ah oui, alors attendez, on me reprend. Évidemment, il faut pas que vous ne baladez pas avec un récépissé expiré, hein. Quand je dis, ouais, voilà, enfin, ça me semble évident, mais ça va mieux en le disant. Si votre récépissé est expiré, alors la France va vous laisser partir, vous ne reviendrez plus. Mais voilà, on parle d'un récépissé qui est encore dans le timing. Hein.
Super. J'ai la dernière question, maître, s'il vous plaît. Excuse-moi. Pour savoir, parce que moi, presque, j'ai 10 ans que je suis là en France, 5 ans en situation régulière, j'ai droit pour faire la demande de nationalité avec un récépissé ou pas?
Là, selon moi, monsieur, enfin voilà, la situation pour l'administration, pour refuser, va être simple. Non, je crois qu'il vaut mieux attendre d'abord le renouvellement de votre titre. Demander la nationalité française avec un récépissé, ça me semble extrêmement fragile. Oui, donc attendez, voilà, d'abord d'avoir des bases solides et à partir de ce moment-là, vous pourrez éventuellement vous poser la question, tout en sachant que si vous avez été en France en situation irrégulière pendant quelques temps, c'est un argument qui est souvent invoqué par l'administration. En gros, on va vous le reprocher, on va vous dire, monsieur, votre dossier est taché puisque vous étiez en France en situation irrégulière. Donc souvent, on invoque ça comme argument. Hein. Ça me semble un peu trop tôt.
Oui, c'est ça, c'est vrai. Mais normalement, pour les accords franco-algériens, pour les Algériens, c'est l'article 7 bis, je pense.
Ouais, mais ça changerait quoi, monsieur? Ça changerait quoi?
J'ai droit pour faire la demande de 10 ans. Comme ça, j'évite.
Ah, mais oui, non, mais monsieur, non, mais si vous passez de la nationalité française à la demande de 10 ans, la demande de 10 ans, de toute manière, c'est un préalable. Vous voyez, vous demandez les 10 ans. Et une fois qu'on vous donne ce petit bout de plastique qui vaut 10 ans, à ce moment-là, vous pourrez réfléchir à votre demande de nationalité française.
Chaque chose en son temps. Merci Ahmed pour votre question. Si vous aussi, vous voulez, comme Ahmed, poser des questions à Maître Serhan, profitez de la pause pour nous appeler au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors, vous êtes très nombreux à vouloir parler à Maître Serhan. Si vous n'arrivez pas à passer à l'antenne, merci de votre patience. Maître Serhan vous donne son numéro de téléphone que vous appellerez bien sûr après l'émission.
Voilà, joignable au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Alors, nous accueillons Amine, Maître Serhan. Amine, bonjour et bienvenue. Amine. Amine.
Bonjour Philippe.
Oui, oui, bonjour.
Je suis là.
Bienvenue.
Oui, bonjour Philippe, bonjour Maître Serhan.
Bonjour Amine.
Bonjour, j'ai appelé plusieurs fois et j'ai toujours la même question. Donc, je compte déposer un dossier pour régulariser ma situation. Donc, moi, j'ai trois enfants. Je suis avec ma femme ici, donc en situation irrégulière depuis 5 ans. Et voilà, la procédure à suivre, c'est vie privée familiale, mais comment commencer, je ne sais pas. Donc, Maître Serhan, si vous pouvez
Alors, la plupart des préfectures permettent aujourd'hui, mais on est dans le théorique, de prendre un rendez-vous via leur site. Mais il est certain, monsieur, que vous n'obtiendrez pas de rendez-vous. C'est assez mystérieux.
Ça a fonctionné
un certain temps. Et puis, méfiez-vous aussi des personnes qui viennent vous voir et qui vous vendent des rendez-vous.
J'ai plein de clients qui ont
payé pour avoir des rendez-vous. Alors, quand vous avez un vrai rendez-vous, et je le redis, un rendez-vous, ça ne veut pas dire que moi, France, je vous donne les papiers. Ça veut dire que je vais vous recevoir.
Et on a parfois
des personnes qui ont acheté des rendez-vous fictifs. C'est-à-dire que quand vous arrivez à la préfecture,
on vous dit que vous
n'êtes inscrit nulle part. Alors voilà, faites quand même attention à ça. Maintenant, à partir du moment où il est impossible de prendre un rendez-vous avec la préfecture, il y a deux options.
Oui.
La première option, c'est de faire ce que je fais moi aussi très souvent, c'est-à-dire qu'on va les saisir, on revient cette fois-ci au vieux recommandé avec accusé de réception, on fait une demande officielle à la préfecture, et il faut savoir que si pendant 4 mois à compter de la réception de cette demande de rendez-vous pour régularisation, il n'y a pas de retour, vous êtes autorisé à saisir le tribunal administratif, car lorsque la préfecture ne répond pas dans un délai de 4 mois, on appelle ça un refus implicite. C'est-à-dire, je ne vous réponds pas, et au bout de 4 mois, vous considérez que c'est refusé, à charge pour vous de saisir le tribunal administratif et de soumettre le dossier au juge. Vous avez
d'accord,
la possibilité...
Maître Serrin, le sens de ma question, c'est de savoir... Donc, moi, c'est pour moi, vie privée familiale, ça rentre dans admission exceptionnelle, c'est ça?
Alors, pour vous, de toute manière, ça va être ça. Mais
le motif, ça va être admission exceptionnelle.
Vous êtes dans le cadre d'une admission exceptionnelle. Mais j'allais dire, quelle que soit en vérité, monsieur, la qualification juridique de votre demande, le timing restera le même. Donc là, admission exceptionnelle ou pas, ce que je vous dis là vaut pour vous.
Bien sûr, là on parle plus du rendez-vous, mais moi je veux mettre le rendez-vous de côté parce que je sais que c'est difficile, je sais qu'il y a des procédures à entamer et tout ça. Moi, ce que je veux, c'est admission exceptionnelle, c'est quel document faudra fournir ou y a-t-il des documents?
Non mais monsieur, sans rendez-vous, le rendez-vous vous n'allez pas le prendre chez le boulanger. Je suis en train de vous dire que l'admission exceptionnelle, c'est par rapport à votre situation familiale. Donc si vous êtes marié, les actes de naissance.
Sur le territoire français.
Donc, il y en a deux autres
qui sont à l'école donc depuis le premier jour.
Vous devez en justifier, il n'y a pas de difficulté. Vous bossez ou pas? Alors,
Je bosse, j'ai un contrat de travail, mais mon dossier il est complet si vous voulez, mais là je suis au point mort. Donc, j'avance.
Vous n'êtes pas au point mort. Si vous avez ces éléments-là, je le redis, soit vous réussissez à avoir un rendez-vous par Internet, ce qui est peu probable, dans l'hypothèse où, admission exceptionnelle ou pas, on va laisser cette qualification de côté, peu importe, pour vous, c'est admission exceptionnelle, mais ça vaut pour les autres qualifications juridiques. Si vous ne pouvez pas avoir un rendez-vous via Internet, vous pouvez les saisir en recommandé avec accusé de réception, ou alors, vous pouvez faire ce qu'on appelle une procédure de référé, une procédure d'urgence devant le tribunal, pour que le tribunal oblige la préfecture à vous fixer un rendez-vous.
Vous recevoir, quoi.
Voilà. Mais là, les éléments à réunir, c'est des trucs classiques. Votre contrat de travail, une livret de famille, les actes de naissance des enfants, justificatif de domicile, évidemment, et puis un petit courrier explicatif racontant votre parcours.
De la situation que je vis, Ok. Ouais, parce que moi, je sais pas par où commencer, c'est pour ça.
Je peux vous le répéter à l'envers, monsieur. Je suis en train de vous dire, Nelchetan.
C'est clair avec vous.
On est d'accord. C'est-à-dire que là, on peut pas faire plus simple que ça. Vous réunissez ça, vous essayez d'avoir un rendez-vous à la préfecture. Si vous pouvez pas, soit vous vous dites, je vais batailler, je vais devant le tribunal pour avoir un rendez-vous, soit vous dites, tant pis, j'envoie tout ça en recommandé avec accusé de réception. C'est la démarche la plus simple du monde, ça. Hein.
Ouais, c'est la plus simple, mais bon, pour avoir un rendez-vous, c'est pas si simple que ça.
Voilà, Maître Serrin. Pour avoir un rendez-vous, faut patienter. Wait online.
il faut peut-être brancher de temps en temps le cerveau.
Maître Serrin, Amine est toujours là? On a perdu Amine. Gentil, Maître Serrin, c'est vendredi. Mais de toute façon, c'est évident pour vous et c'est simple pour vous, Maître Serran, parce que vous vivez toujours dedans. Mais pour des gens qui déposent un dossier pour la première fois, il faut.
Ouais. Mais je viens pas d'expliquer trois fois la même chose pour, à la fin avoir
jamais deux sont
trois. Avoir la réponse qui me semble un peu triste en disant mais pour avoir un rendez-vous, je crois qu'on est en train de parler ça depuis un quart d'heure.
C'est pas simple d'avoir un rendez-vous, Maître Serran. Voilà.
Non, je vais vous expliquer comment faire.
Non, parce que je préfère qu'on ait Majda qui est avec nous au 01 53 48 3000. Majda, bienvenue.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour madame Majda.
Bonjour maître.
Bonjour Majda.
J'ai une question par rapport en fait à la naturalisation. C'est un peu compliqué pour moi. J'ai fait la demande en 2020 et j'ai été naturalisée au mois de mars avec ma fille et mon fils qui est né en cours de construction. J'avais oublié d'envoyer les actes de naissance et du coup il n'apparaît pas sur le.
Bah oui. Mais la responsabilité ne revient pas, vous l'aurez compris, à l'administration. C'est-à-dire que la naissance d'un enfant, c'est pas un acte anodin. À partir du moment où, évidemment, il y a entre-temps la naissance d'un enfant, à charge pour vous d'informer l'administration. Sinon, vous comprenez bien que là, on peut pas leur en vouloir. Eux, ils vont se baser sur les éléments qu'ils ont au dossier. Donc que l'enfant ne soit pas concerné par cette nationalité française, alors c'est bien dommage, mais vous pourrez ensuite faire une procédure. Mais voilà, ça vous oblige à nouveau à ressaisir l'administration et à faire des démarches.
Oui, du coup, j'avais envoyé plein de mails à la préfecture en expliquant, je pensais pas que... j'ai oublié, quoi. Et du coup, j'ai aucune réponse.
Ah non, mais de toute manière, il n'y a pas de réponse à apporter, madame. L'argument « j'ai oublié » n'est pas un argument juridique. Vous avez oublié, khlas, dont acte. Maintenant, c'est terminé. De toute manière, l'administration ne va pas vous dire « écoutez, vous avez oublié, c'est pas grave, envoyez-moi l'acte de naissance de l'enfant et on va rectifier ». Donc, à ce niveau-là, c'est terminé. Donc, il faudra ensuite formaliser un nouveau dossier pour l'enfant, mais n'attendez pas de réponse de la part des autorités préfectorales.
Oui, d'accord.
Ce que vous dites est important. C'est-à-dire que souvent, les gens déposent des papiers, les procédures sont longues, et puis il peut se passer mille choses entre-temps. Alors, si vous pouvez vous marier entre-temps, vous pouvez avoir un enfant, vous pouvez changer de boulot, vous pouvez changer d'adresse, vous avez bien compris qu'à partir du moment où il y a un élément nouveau qui n'est pas anodin, la naissance d'un enfant, de facto, faut informer l'administration. Et si vous ne le faites pas, l'administration va se prononcer sur les éléments qu'elle a sous les yeux. C'est dommage.
Oui, c'est bien dommage. Franchement, je ne sais pas ce qui va passer, donc
je n'ai
même pas pensé.
Bon, ça ne bouleverse pas non plus la situation. Vous êtes française. Bon, l'enfant aura sa nationalité française sans difficulté, mais ça vous aurait évité de redéposer un nouveau dossier.
Oui, et du coup, le nouveau dossier, en fait, comment le faire? En fait, je ne sais pas de quoi commencer.
Vous allez saisir les autorités préfectorales en justifiant vous-même de votre nationalité française avec l'acte de naissance de cet enfant. Et vous êtes française, donc l'enfant deviendra automatiquement français. Et je vous dis, ce qui est dommage, c'est que, alors, encore une fois, c'est pas très compliqué, mais ça vous oblige à faire des démarches, alors que là, de facto, sans qu'il y ait à faire quoi que ce soit, si ce n'est d'envoyer l'acte de naissance de l'enfant, de facto, il aurait été français sans aucun problème. Oui. Mais c'est pas, encore une fois, compte tenu de votre situation, c'est pas très compliqué.
D'accord.
Voilà, Majda.
D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup.
Merci d'avoir appelé Majda. Je rappelle que vous pourrez appeler Maître Serran, donc si vous n'avez pas pu passer aujourd'hui, sur son téléphone
on peut l'appeler comme ça. 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Moi, j'étais en train de me demander si on pouvait appeler quelqu'un sur son téléphone. Si c'était français, en fait.
Ouais. Sous son téléphone.
Maître Serran au téléphone. Voilà, qui était français. Mais sur son téléphone, je ne sais pas. Si vous êtes techniquement sur votre téléphone, Maître Serran. Est-ce que vous pourrez nous répondre vendredi prochain?
D'accord, je vais y réfléchir, une étude. Voilà. Et je vous apporte une réponse.
D'accord. Et puis, étudiez votre voiture électrique, qu'on sache effectivement si ça a fonctionné ou pas. Merci d'avoir été avec nous. Demain, c'est l'imam Abdelali Mamoun qui est avec nous. entre 10h et 11h pour l'islam au présent sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.